Il s'agit d'un trafic qui rapporte chaque année dans le monde entre 8 et 21 milliards de dollars, celui de la faune sauvage terrestre. Un commerce illicite qui touche en particulier les espèces les plus rares, qui sont les plus convoitées. L'association Robin des Bois publie dans 2 jours un atlas du business des espèces menacées aux éditions Artaud pour dénoncer la cruauté, la violence, la corruption et l'inventivité de ces filières à l'origine de ce marché juteux qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Charlotte Nittard est directrice de campagne de l'association Robin des Bois, co-auteur de cet atlas. Elle est mon invitée dans un instant et vous pouvez dès maintenant lui poser toutes vos questions en direct pour parler de ce trafic d'animaux. 01 45 24 7000 franceinter.fr pour vos messages et le mot-clé l'attaque pour les réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Camille passe au vert dans quelques minutes.
Et je vous parle d'Extinction Rébellion qui est passée à l'action dans plus de 60 villes dans le monde pour défendre le climat.
Dans la deuxième demi-heure, le feuilleton de la semaine, nouveau reportage avec vous Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
Au menu,
on ira à Langouette, le laboratoire écologique. On en parle beaucoup depuis que le maire Daniel Cueff a pris un arrêté anti-pesticides. Mais on verra aussi que sa conversion date d'il y a fort longtemps.
Et nous irons à l'école en particulier pour commencer. Vos solutions pour la planète, nous serons en ligne avec Martin, un biologiste marin qui mène une action de conservation pour les coraux en Indonésie. Et puis notre invité découverte est le chercheur Laurent Beg qui participe depuis quelques semaines à cette opération Lundi Vert, des lundis sans viande. On fera le point avec lui au moment justement où les restaurants universitaires s'apprêtent à élargir cette initiative. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique aujourd'hui Mathias Alléon et Ronan Mahé.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. France Inter.
Bonjour Charlotte Nittard.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes donc directrice de campagne pour l'association de protection de l'homme et de l'environnement Robin des Bois et co-auteur donc de cet atlas du business des espèces menacées qui va sortir mercredi aux éditions Artaud, un ouvrage qui montre à quel point ce trafic est devenu une véritable industrie à l'échelle planétaire, ça ne cesse de s'étendre. 32 espèces sont examinées dans cet atlas. Sur quels critères, pardon, vous les avez choisis exactement ?
Alors, on les a choisis du plus petit, comme l'hippocampe, au plus grand, comme l'éléphant. On a essayé aussi de montrer la diversité des milieux. Finalement, tous les milieux sont ciblés, que ce soit l'air avec les oiseaux, la terre, les mers, bien entendu, les marais avec les civelles ou les grenouilles. Donc, une grande diversité. On s'est attaché aussi à parler des espèces emblématiques, comme les rhinocéros, mais aussi aux 100 grades, dont on parle trop peu, comme les holoturies, c'est-à-dire les concombres de mer. Ouais. Ou les mal-aimés comme les tarentules. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que ces 32 espèces soient un peu les ambassadrices de toutes les autres qui sont pillées au nom de l'industrie de la mode, des animaux de compagnie, du luxe, et puis bien entendu énormément pour leurs prétendues vertus médicinales.
Oui, ça fait vraiment le malheur de beaucoup d'animaux, en Asie en particulier, hein, où on imagine justement que ces animaux ont des vertus particulières. Vous comparez finalement ce business au trafic des déchets, des armes ou de la drogue, on est finalement dans les mêmes mécanismes à peu près ?
C'est les mêmes mécanismes. Alors il y a plusieurs degrés, effectivement, il y a des opportunistes, des petits braconniers, des petits trafiquants, mais on voit qu'il y a aussi de plus en plus, depuis une dizaine d'années, des gangs, des réseaux criminels, de criminalité organisée internationale, qui s'intéressent à ce trafic parce que ça rapporte énormément et avec une prise de risque bien moindre pour la drogue, par exemple, des sanctions beaucoup moins importantes et des profits considérables. Et parfois, c'est les mêmes réseaux qui vont du trafic de drogue au trafic d'écailles de pangolins. Et il arrive parfois que dans des cargaisons, il y ait à la fois de l'ivoire et des amphétamines et des téléphones portables de contrefaçon, etc. Donc, c'est des réseaux tentaculaires qui s'adaptent. Là où il y a de l'argent à se faire, elles plongent. Ces réseaux plongent. Ils plongent.
Alors, vous parliez de tous les milieux étudiés justement dans l'Atlas. Il y a une publication Science qui est sortie la semaine dernière qui, elle, concerne plutôt les vertébrés terrestres. Et le chiffre que je donnais tout à l'heure, c'est entre 8 et 21 milliards de dollars, justement. C'est ce que rapporte ce commerce illégal.
C'est ce qui rapporte. Alors, c'est des estimations qui sont difficiles à faire parce que, bien entendu, c'est de la contrebande. Mais c'est un chiffre minimum. Rien que pour les civelles, donc c'est les alevins des anguilles, Europol, donc l'agence européenne de police, estime que le trafic rapporte 3 milliards d'euros par an. Donc c'est des chiffres, c'est des macro-chiffres, mais en tout cas c'est une course au profit, et ceux qui font ce trafic, c'est pas seulement, on parle pas là de trafic fait à des fins alimentaires, c'est pas de la chasse de subsistance, non, c'est du trafic, de la revente, du commerce, et il y a vraiment une course au profit, c'est-à-dire que plus il y a de l'argent généré, plus ça intéresse les gros caïds, et plus la pression est importante sur ces espèces.
Alors la première espèce dont vous parlez dans l'Atlas, c'est le pangolin. En quoi justement cet animal est emblématique de ce trafic?
Alors c'est le mammifère le plus braconné au monde, c'est le seul mammifère à écailles. Il y a 4 espèces en Afrique, 4 en Asie, et il est chassé à la fois pour sa chair, sa viande donc, son sang, les fœtus, et aussi beaucoup les écailles. Et ça recoupe ce que dit l'article de Science qui vient de paraître, c'est-à-dire qu'on a vu qu'à cause de ses prétendues vertus médicinales, anti-inflammatoires, etc., du pangolin, quelles que soient les parties, en Asie, les 4 espèces ont été extrêmement chassées, persécutées, qu'il y en a quasiment plus, et donc la prédation s'est tournée vers l'Afrique. Et à l'heure actuelle, les pangolins d'Afrique sont eux aussi gravement menacés d'extinction, et donc il y a un gros trafic qui se fait de pair avec le trafic d'ivoire, souvent, avec des cargaisons d'écailles qui sont avec des cargaisons d'ivoire dans des grumes, des fois dans des ambulances, sur des vélos. Il faut bien voir aussi que les modes de transport sont extrêmement divers et très difficiles à contrôler.
Vous dites qu'on a intercepté une femme qui venait d'Asie, je crois, avec des écailles de pangolin cachées dans du saumon congelé.
Absolument, on a vu des choses totalement improbables dans des ventres de saumon congelé. On a vu aussi des cornes de rhinocéros coupées en lamelles dans des têtes de homard. Bon, il y a les coups classiques autour des chevilles. Des fois, c'est mélangé avec le lait en poudre pour bébé. Enfin, il y a une filière tailleur, ce qu'on appelle une filière tailleur, c'est-à-dire de la haute couture avec des poches intérieures, 40 poches qui permettent de mettre plusieurs grammes ou dizaines de grammes ou kilos d'ivoire. Ça, c'est pour les petits porteurs. Et puis, vous avez les gros flux qui se font par trafic aérien ou maritime. Et là, le conteneur maritime, c'est un peu comme la méga valise diplomatique. Les contrôles sont très rares.
Vous parlez de la cruauté aussi, la façon dont sont tués ces animaux ébouillantés vivants, par exemple pour les pangolins. On va y parler tous les détails, mais en général, c'est dans ce genre de conditions que ça se fait. Alors, les rhinocéros, parce que l'exemple est intéressant, parce qu'il concerne aussi la France. C'est-à-dire que ce trafic, il se fait aussi au sein même de notre pays.
Oui, alors à la fois, vous avez des gangs qui ont attaqué en Europe et notamment en France des muséums d'histoire naturelle pour voler des cornes sur les rhinos qui étaient exposés. Et puis, vous avez l'exemple édifiant de Vince, je sais pas son petit nom, le rhinocéros de Thoiry, donc dans les Yvelines, qui un matin de mars 2017 a été retrouvé avec 3 balles dans la tête, une corne coupée, l'autre partiellement arrachée, et c'est la première fois que dans un zoo il y avait un braconnage comme ça pour obtenir cette corne qui vaut extrêmement cher, c'est-à-dire que au kilo en ce moment on est à peu près à 25 000 euros par kilo, c'est considérable. Ça a été des fois plus important, mais c'est déjà considérable.
On dit que c'est plus que la cocaïne quasiment.
Oui, ou kilo, c'est pareil que l'or. Alors les cours varient, mais on est dans cet ordre de grandeur.
Alors Charlotte Nittard, le concombre de mer, parlez-nous quand même, parce que le nom est amusant comme ça, mais en réalité ça fait l'objet d'un trafic. Donc dites-nous, quel est cet animal exactement?
Alors le concombre de mer, ça a la forme d'un concombre, on va dire. Ça vit sur les fonds marins. Alors on en trouve jusqu'à 5000 mètres de profondeur dans tous les océans du monde. Et de tout temps, c'était considéré comme un élixir de jeunesse. Et depuis quelques années, ça aussi, il y a des nouvelles rumeurs, parce que les trafiquants sont experts en marketing. Des nouvelles rumeurs comme quoi ça guérirait du cancer et du sida. Donc forcément, il y a une forte pression sur ces animaux qui vivent sur les fonds marins, qui sont indispensables à l'écosystème, notamment dans les récifs coralliens. C'est un rôle d'épurateur. C'est des jardiniers de la mer. D'ailleurs, dans certaines régions du monde, par exemple en Nouvelle-Calédonie, ils appellent ça les bêches de mer. Et ces concombres de mer sont chassés, pêchés de plus en plus profond, ce qui pose aussi alors des problèmes de disparition de l'espèce, de qualité du milieu marin, de résistance, de résilience du milieu marin, mais aussi des problèmes de sécurité pour les pêcheurs, qui bien souvent sont des jeunes hommes qui sont recrutés sans les formations nécessaires pour plonger à des dizaines de mètres, donc il y a des accidents de plongée, et ça pose vraiment des problèmes également sociaux. Et ça, c'est une constance dans le braconnage, c'est que ça induit toujours soit de l'instabilité, soit de la décohésion sociale, parce que dans certaines familles, vous avez le frère qui est braconnier, le beau-frère ou le cousin qui est Rangers. Donc c'est un facteur aussi d'instabilité.
Charlotte Mittard, ce titre de votre atlas du business, donc des espèces menacées, évidemment toute son importance est dans le titre, parce que justement, ces espèces qui sont bien souvent inscrites sur les listes des animaux en voie de disparition sont également ceux qui sont les plus convoités.
C'est ça, il y a un effet, plus une espèce est rare, plus elle va être demandée, parce que justement considérée comme rare, plus elle va être chère, et donc plus ça va être tentant pour les réseaux de les cibler. Il y a un cercle vicieux infernal, et quand il y a un certain stade qui est arrivé, c'est-à-dire même en allant dans les endroits les plus reculés, en allant harceler ces espèces dans les endroits les plus protégés et les moins accessibles, il y en a moins tout d'un coup. Sur le marché, donc il y a un effet report sur d'autres espèces, et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'étude que vous avez mentionnée tout à l'heure, c'est qu'il faut essayer d'anticiper. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certaines espèces qui, à l'heure actuelle, ne sont pas gravement menacées d'extinction, mais étant donné que leurs cousins, cousines qui leur ressemblent ou auraient prétendument les mêmes propriétés arrivent vraiment à un stade critique, on sait qu'il va y avoir un effet report.
On se retrouve dans un instant, on en discute avec les auditeurs de la Terre au Carré, 01 45 24 7000. Toutes les questions pour vous, Charlotte Mittard, vous êtes notre invitée avec l'association Robin des Bois pour la publication de cet atlas du business des espèces menacées. À tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Cronier, on en a parlé Camille la semaine dernière, Extinction Rébellion débute 2 semaines d'action dans 60 villes du monde pour défendre entre autres le climat.
Oui, des actions toujours spectaculaires faites pour marquer les esprits et faire des images à la télé.
Extinction Rébellion. Extinction.
Là, c'était par exemple en juin dernier, la branche française du mouvement déversait 300 litres de faux sang sur les marches du Trocadéro.
C'est le sang de tous ses membres, victimes humaines ou animales présentes. On va venir, que nous rendons visibles.
Du rouge qui coule juste en face de la tour Eiffel. Ils l'ont fait à coups de tuyaux géants la semaine dernière de l'autre côté de la Manche, la façade du trésor de Sa Majesté aspergée. Ce week-end, vous l'avez peut-être entendu dans les informations, ils ont occupé un centre commercial à Paris. La police, doucement, on est là pour vos enfants, slogan qui revient régulièrement, car Extinction Rébellion se dit non-violent, contrairement à ce que pense Ségolène Royal, c'était ce matin sur France Inter.
Il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents. Il faut les réprimer très, très rapidement.
Alors, Extinction Rébellion, on les a vus aussi teindre la rivière de Zurich en vert fluo, en slip ou en petite culotte dans les couloirs du Parlement britannique, ou encore se coller avec de la glu à certains bâtiments. Ils visent en général des symboles comme Shell, Total ou des banques. Au mois d'avril, ils avaient bloqué Londres pendant 11 jours avant que le Parlement ne finisse par déclarer l'urgence climatique l'une de leurs revendications.
Notre planète, la seule abritant le vivant, se meurt. Les espèces disparaissent à un rythme alarmant, une toutes les 8 minutes. Les écosystèmes sont détruits au rythme de notre croissance économique. La Terre est une fournaise.
Alors ça, c'est le genre de vidéo pas très joyeux, oui, on peut le dire, qu'on trouve sur Internet, car Extinction Rébellion y est très actif, que ce soit sur Facebook, Twitter ou YouTube, où le mouvement nous fait le portrait de certains membres, comme Phil Kingston, le rebelle de 83 ans, c'est le titre de la vidéo.
When the idea came up to block railway lines, tube lines, we agreed to take part in that.
Alors Phil, vous l'entendez, il est anglais, un papy qui raconte comment il a été arrêté 4 fois.
I was arrested on 4 occasions.
En bloquant des routes.
Blocking roads.
Ou des trains.
Block railway lines.
Et très fier.
Giving a great satisfaction.
Voilà, une façon de montrer qu'on trouve tous les profils à Extinction Rébellion. D'ailleurs, voilà ce que disait l'un d'eux ce matin sur France Inter au micro de Delphine Evenoux.
Le militant anti-Pixar, c'est quelqu'un qui n'a jamais milité du tout, qui a plutôt une bonne connaissance scientifique de la situation, que ce soit écologique, sociologique, économique. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de manifestations, de pétitions, qui veut rentrer en action tout de suite.
Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il a parlé du militant type XR. XR, ouais. C'est le diminutif d'Extinction Rébellion. Et le symbole, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est un cercle qui symbolise la Terre avec un sablier à l'intérieur pour représenter le temps qui est compté. Le mouvement de désobéissance civile porte le même nom anglais, vous l'avez aussi remarqué, où qu'il soit dans le monde.
On pourrait traduire donc par la rébellion contre l'extinction.
Oui, c'est ça. Et il est né, ce mouvement, il y a presque un an, jour pour jour, au Royaume-Uni, à l'appel d'une centaine d'universitaires et d'un mouvement déjà existant, Rising Up, là ça pourrait être se lever, qui a lancé la toute première action à Londres le 31 octobre 2018. XR se dit totalement horizontal, une gestion décentralisée sans leader. C'est le message qui compte, relayé par des stars, des acteurs d'Hollywood, Javier Bardem.
Extinction Rebellion is doing an amazing job.
Emma Thompson.
Now's the time to save the planet. As we all know, there is no planet B.
Ou encore Willem Dafoe, qui jouait notamment, vous savez, le méchant dans Spider-Man, le bouffon vert.
Hi everybody, with Extinction Rebellion, I'm Willem Dafoe in Mexico, and I'm with you.
Et comment sont-ils financés, Camille?
Ils sont très partisans du do-it-yourself. Chacun son matériel, ses pancartes, etc. Comme ça, eh bien, chacun s'autofinance, entre guillemets. Mais il y a aussi une page pour faire des dons sur le site internet. Ils ont même accepté cet été plus de 500 000 dollars de philanthropes américains, des hommes d'affaires millionnaires. Ça a fait polémique. Et puis... Radiohead a promis de leur reverser les bénéfices des 18 heures d'enregistrement de leur album OK Computer, enregistrement piraté en juin dernier par un hacker qui demandait 150 000 dollars pour ne pas les divulguer. Le groupe a préféré les rendre publics lui-même avec participation financière possible mais pas obligatoire et donner l'argent récolté donc à Extinction Rebellion.
This is what you get, Radiohead, à l'instant, dans votre chronique, Camille, passe au vert à réécouter sur franceinter.fr.
Charlotte Nittard, est-ce que ce type d'actions sont efficaces pour sauver des espèces et donc éviter évidemment les trafics?
Parce qu'ils se battent pour le climat et aussi pour la biodiversité animale.
J'entends bien. Je pense que oui, ça peut être utile, effectivement. Nous, notre critère, c'est la non-violence. Et là où on est extrêmement vigilant aussi, c'est sur la récupération. Là, il y a quand même un risque. Et donc, jusqu'alors, ça va. Mais il faut faire très, très attention, rester non-violent, pas se faire récupérer.
C'est leur critère aussi, d'ailleurs.
C'est leur critère. C'est pour ça qu'il faut que ça reste comme ça. Et oui, ça peut jouer un rôle, notamment pour dénoncer les doubles discours, et il y en a marre des doubles discours. Par exemple, la Commission européenne qui nous dit qu'elle veut sauver toute la biodiversité et qui, dans des conventions internationales, comme au mois d'août dernier à Genève, a voté contre l'inscription de tous les éléphants en annexe 1, c'est-à-dire protection totale au sein de la CITES, alors que la Chine a voté pour, quand même. Donc, on se pose des questions sur l'Europe. Donc, pour dénoncer les doubles discours, et puis aussi, c'est quand même un soulagement de voir que beaucoup de gens se rendent compte que militer, c'est pas un clic sur Internet, parce que depuis quelques années, il y avait quand même un malentendu à ce sujet.
Charlotte Nittard, vous dialoguez avec les auditeurs de la Terre au Carré. On se retrouve dans un instant, 01 45 24 7000, pour parler avec vous de cet atlas du business des espèces menacées.
rien, il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui cherche à gagner la vallée, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays où vivre. Vivant, vivant de corps et d'esprit.
Corps et d'esprit, vous avez reconnu la voix de Bertrand Belin.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Charlotte Nittard pour l'association Robin des Bois et cet atlas du business des espèces menacées, braconnage, cruauté, contrebande. Ça sort mercredi, hein, attention, chez Artaud, mais vous pouvez le commander évidemment dès maintenant. Et on dialogue avec les auditeurs de La Terre au Carré, nombreux déjà au standard pour vous, 01 45 24 7000. Et je crois que c'est Christian avec lequel nous commençons. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, on écoute votre question, bienvenue.
Bah écoutez, voilà, il y a quelques années de ça, ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai quitté l'administration des douanes, et une de nos nombreuses missions était donc la lutte contre le trafic des espèces animales ou végétales qui sont reprises à la célèbre convention de Washington. Sauf que, au fil des années, c'est une mission qui a été un peu, je trouve, pas loin d'être prioritaire. J'ai commencé à travailler dans le nord de la France, où à proximité de la Belgique, où c'était aussi une entrée énorme de ces animaux qui étaient particulièrement protégés et aussi particulièrement sollicités par certains collectionneurs ou autres. Mmh. Bref. Et donc, au fur et à mesure des années, maintenant j'ai quitté l'administration depuis 2010, mais surtout à partir de 2007 où la priorité était plus sur les stupes ou les contrefaçons, voilà tout ce qui était donc ces animaux, ces espèces animales et végétales, et Dieu sait si on a saisi vraiment des quantités assez conséquentes. Mmh. Eh ben en fait voilà, ça a été un peu bon, c'était loin d'être la priorité. Mmh. En fait,
Charlotte Nittard, alors est-ce que les choses changent aujourd'hui selon vous?
Oui, ça a changé un petit peu au niveau mondial depuis que les États se sont rendus compte que le trafic de faune était un facteur de financement de groupes terroristes, donc à partir des années 2010. Mmh. Maintenant, je partage complètement le constat, et c'est dans tous les pays européens et beaucoup de pays du monde, sauf les États-Unis qui quand même ont une administration douanière différente, mais il y a un manque de moyens humains et financiers, et puis aussi un manque de moyens pour enquêter, pour faire des filatures, des colis suivis, des moyens d'investigation pour, quand il y a une saisie, remonter jusqu'au commanditaire, comme ça se fait pour les trafics de drogue par exemple, et que les caïds se fassent arrêter, et pas seulement les mules ou les petits porteurs. Et c'est vrai que la France est un pays de transit considérable, de par ses ports et ses aéroports, et une des routes en transport aérien entre l'Afrique et l'Asie, c'est Roissy-Charles de Gaulle.
On le voit très bien avec les cartes que vous proposez d'ailleurs dans cet atlas.
On a une remarque de Pierre qui dit: en Guyane, il y a évidemment beaucoup de trafic d'espèces animales. Les plus trafiqués ne sont pas les vertébrés, mais les insectes et arachnides, papillons, mygales, scorpions. Et curieusement, la mode de l'écologie mode entre guillemets, n'a fait que renforcer l'appétit des collectionneurs pour les animaux exotiques, c'est vrai ?
C'est vrai, on l'a vu, y compris avec des films Disney-Pixar, avec le poisson clown qui tout d'un coup
est décimé,
hein. C'est incroyable. On le voit aussi avec les chouettes de Harry Potter. Donc là, il y a une incohérence importante. Et c'est vrai, il a raison de le dire, c'est qu'il y a beaucoup de trafic pour des animaux de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie, qui sont les tarentules ou beaucoup de reptiles, des tortues, des geckos et autres, et c'est une part importante de ce trafic.
Bruno, bonjour, vous êtes en ligne avec nous.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute, quelle est votre question ?
Tout d'abord, je vous remercie pour vos émissions.
Merci.
Ma question, c'est que je crains qu'en fait, ce trafic perdure et augmente, parce que je pense que les acteurs de ce trafic ont placé un sentiment d'impunité. Est-ce que ce ne serait pas lié, comme dans beaucoup de domaines, hélas ?
Charlotte Nittard.
Si, il y a de l'impunité dans des pays, dans beaucoup de pays où se passent les trafics, de la corruption, de la fraude documentaire, des remises en liberté sous caution avec des sommes ridicules. Là, dernièrement, il y a eu une saisie d'une valeur de 2,2 millions de dollars en Ouganda, ivoire et écailles de pangolin. Les deux Vietnamiens ont été relâchés pour 3 500 euros de l'équivalent de caution. Donc, il y a une impunité. C'est pour ça que la coopération internationale est importante et que l'amélioration des outils policiers, douaniers et judiciaires dans les pays où il y a le plus de biodiversité est très importante.
Anne-Noudi, est-il normal, et merci Bruno pour votre question, de mettre de la fourrure de raton laveur sur les capuches des blousons, des parkas aujourd'hui pour en faire une bordure? Ne peut-on pas empêcher ce genre d'action? Les consommateurs doivent lire l'étiquette de composition avant d'acheter. Là, est-ce qu'on est dans du trafic ou est-ce qu'on est carrément dans de l'élevage?
Là, c'est de l'élevage. Mais faut faire très attention entre élevage, commerce légal, commerce illégal. C'est-à-dire que souvent, alors pour les ratons laveurs, je sais pas, mais pour les boas ou les geckos ou les tarentules, on voit que les élevages finalement sont réapprovisionnés avec des animaux capturés dans la nature. Ça pose aussi une question essentielle de bien-être animal dans ces élevages. Et les élevages servent à blanchir finalement du braconnage. Lire l'étiquette, ça évidemment. Mais en ce qui concerne les vêtements, comme le reste, c'est indispensable.
Question d'Ombline, à qui sont-ils vendus tous ces animaux et à quoi sert leur trafic ?
Alors c'est à la fois la mode, on vient de l'évoquer, c'est aussi les animaux de compagnie, avec des fois des animaux improbables, c'est les vertus soi-disant aphrodisiaques, et puis il y a des nouvelles modes, c'est-à-dire que les trafiquants s'attachent rarement aux maladies rares, ils s'attachent plutôt aux mots universellement communs, à savoir la lutte contre la calvitie, la perte de libido, ou contre des fléaux type cancer et sida, sans aucune preuve, hein, bien entendu, je réinsiste là-dessus. Oui. Donc c'est là-dessus qu'ils surfent.
Jean-Michel, bonjour, merci d'être avec nous. On écoute votre question pour Charlotte Nittard, bienvenue.
Oui, bonjour. Est-ce que les zoos n'encouragent pas le commerce des animaux, dans la mesure où on parque des animaux qui viennent de toute région, de tout pays, et tout le commerce qui se fait autour?
Charlotte Nittard.
Alors c'est mon avis, c'est-à-dire qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que ça permet au grand public de découvrir ces animaux et donc de mieux les aimer et de mieux les protéger. Or c'est pas vraiment des animaux, c'est des fantômes d'animaux qui sont parqués, qui n'ont plus du tout leur comportement ni même leur beauté originelle. Et en fait, effectivement, au début, ces zoos sont approvisionnés par des animaux capturés dans la nature. Et on voit pour certains animaux, ils ne se reproduisent pas en captivité, ou très rarement, c'est le cas des éléphants. Et une des rares avancées, mais enfin une des avancées, parce qu'on en a eu plusieurs, de la dernière convention de Washington au mois d'août dernier, ça a été d'interdire ou presque la capture et l'exportation d'éléphantaux depuis les pays d'Afrique australe, en particulier Zimbabwe, qui est un gros exportateur vers la Chine, mais pas seulement. Les Américains aussi sont intéressés, parce que quand vous prenez un éléphantau, c'est tout le groupe de la famille qui est impactée, donc ça a un impact à l'échelle de l'espèce. C'est pas seulement un individu, c'est tout un groupe familial.
Merci beaucoup Charlotte Nitard, on aurait pu discuter encore longuement avec vous. Merci. Ce sujet est important et vous en publiez d'ailleurs un atlas, atlas du business des espèces menacées, donc autour du braconnage, de la contrebande. Et c'est chez Artaud, ce sera à partir de mercredi dans toutes les librairies. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui dans la Terre au Carré. Juste après les infos, le reportage de la semaine, direction Langouette en Bretagne, où s'est rendu Sandy Dauphin pour l'émission. Cette commune est devenue un exemple en matière d'écologie et nous verrons pourquoi juste après les informations. Puisqu'il est 14h sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure que nous allons passer ensemble, vos solutions pour la planète. Dans quelques minutes, nous ferons connaissance aujourd'hui avec Martin. C'est un biologiste marin qui mène une action de conservation pour les coraux en Indonésie. Et puis l'invité découverte est Laurent Bay, qui est professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble et qui est à l'origine de cette opération lundi vert. Vous savez ce que c'est, Camille?
Oui, on mange pas de viande le lundi, un lundi par mois.
Voilà, dans votre assiette.
Un lundi par mois ou un lundi par semaine?
Tous les lundis. Ah, voilà. Mais pour ça. Le moment, c'est le reportage de la semaine. Avec vous, Sandy Dauphin. Et cette semaine, la Terre au Carré se pose donc à Langouette, le village breton presque 100% écolo. Et à moins d'habiter dans une grotte, vous avez forcément entendu parler de son maire, Daniel Cueff, ces dernières semaines. Il défrait la chronique depuis qu'il a pris son arrêté anti-pesticides. Un arrêté suspendu. Le tribunal administratif de Rennes doit d'ailleurs se prononcer sur le fond de ce dossier lundi prochain, Sandy. Hein.
Oui, tout à fait. Donc je me suis rendue à Langouette et le maire n'a pas entendu ce coup d'éclat pour se convertir à l'écologie. Ça fait 20 ans qu'il y travaille et tout a commencé à l'école maternelle et primaire. Ses panneaux photovoltaïques, son système de récupération d'eau de pluie pour la chasse d'eau des toilettes, son potager et surtout la première cantine scolaire bio de France, c'était il y a 15 ans. Voilà, là on se trouve dans la cantine de l'école de Langouette. Et vous êtes donc Thierry, le cuisinier. Thierry comment ?
Thierry Le Duf.
Et alors qu'est-ce qu'on mange à midi ?
Alors ce midi c'est un rôti de bœuf, avec des petits légumes de saison. Donc il y a des carottes, aubergines, courgettes, poivrons, avec des pommes de terre, cuits au four, des petits légumes rôtis.
Tout est fait ici ?
Tout est fait ici, ouais.
Alors la particularité c'est que c'est une cantine bio. Ce qu'on mange ce midi, ça vient du coin ?
Ouais, alors le bœuf qu'on mange ce midi vient de Lanvalet, c'est à 50 km d'ici. Sur la côte, là. Et puis, sinon, les légumes, en fait, ouais, c'est des légumes qui viennent de Vignoc. Donc, Vignoc, c'est le bled qui est juste à côté. Mais en majorité, en fait, on essaye de s'approvisionner, en fait, avec des produits locaux, quoi. Après, on n'est pas 100% local, mais en fait, on essaye au maximum, en fait, de travailler avec des gens du coin.
Je m'appelle Marie-France, je suis cuisinière en fait.
Donc là, le service va commencer.
Voilà, tout à fait. Valentine, assieds-toi bien, ma puce.
Et là, qu'est-ce que tu manges ?
Je mange de la viande avec des légumes, des patates.
C'est bon ?
Ouais, bah ça dépend ce qu'on mange, mais la plupart du temps, c'est assez bon. Mais il faut qu'on est obligé de manger parce qu'après, on peut pas trop en laisser, sinon ça va faire trop de déchets.
Bah oui, c'est super bon.
Et ici, vous essayez de faire le minimum de déchets possible ?
Ouais, ici. Quand on débarrasse les assiettes, on a un seau, on met dedans, et après, généralement, ça part aux poules. Et les poules, elles ont l'air d'adorer ça aussi.
Daniel Cueff, maire de Langouette, il est vilaine.
La cantine bio, c'est la première de France. Est-ce que ça revient plus cher ?
Du tout, c'est une des grosses surprises que nous avons eues. C'est-à-dire que si les ingrédients bio sont plus chers, nous sommes très liés à la saison. C'est en fait les agriculteurs qui font les menus chez nous. Et donc, on a les prix les moins chers à ce moment-là. Le fait aussi que les ingrédients soient plus consistants. Le pain bio est plus consistant, par exemple. Donc, on a appris à acheter la quantité nécessaire, mais pas plus que la quantité nécessaire. Et on a fait des mixtes aussi entre les protéines animales et les protéines végétales. Donc les protéines végétales sont moins coûteuses que les protéines animales. Les diététiciens nous avaient dit qu'il faut mettre un peu moins de viande. Donc on a mis un peu moins de viande.
C'est combien ici le menu cantine ?
Les familles payent 3,50 € ou 1,75 € si ce sont des familles nombreuses.
Alors on se trouve dans l'école ici. C'est un petit peu ici que tout a commencé dans la conversion de Langouette à l'écologie, non ?
Oui, hein, donc elle est rénovée en terre-pierre, qui est le matériau local. très orientée au sud, ce qui lui permet d'avoir un bon éclairage à l'intérieur. Elle est toute en bois à l'intérieur. Les premiers panneaux photovoltaïques installés en Bretagne sont ici, sur cette école. Donc c'est de l'écologie très concrète. Nous n'avons pas voulu faire une écologie de l'incantation, mais une écologie de l'action. C'est par là que passe l'écologie, par le concret, plus que par les discours.
Je suis Simon Furet, enseignant en CE2, CM1, CM2 et directeur de l'école.
Je rentre aussi ?
Oui, merci beaucoup.
Ça, c'est votre classe, donc.
Ça, c'est ma classe.
Alors, la première chose qui frappe quand on rentre dans cette classe, c'est qu'il y a du parquet. Les murs sont en bois.
Voilà, bois partout.
Et ça absorbe le bruit.
Également. Puis c'est également un observatoire pour les élèves, puisque quand on parle d'éco-construction, eh bien, il suffit de voir comment l'école est construite.
C'est quoi ?
C'est bien isolé. Et puis en plus, le chauffage, c'est du chauffage au sol. Il y a des panneaux solaires.
Hélène Karadec.
Et vous êtes donc enseignante ?
Enseignante des CPCE1.
Et donc, Monsieur Poème disait que petit à petit, tout le monde change un peu d'habitude. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples dans votre classe ?
Tout à fait. Alors, depuis cette année, je n'utilise plus de feutre Velleda, parce que c'est vrai que c'est cher, ça s'use très très vite. Ça fait beaucoup de déchets plastiques, il y a des produits chimiques dedans, voilà. Donc, cette année, on utilise des crayons, c'est un genre de pastel gras, voilà. Et donc, c'est beaucoup plus durable. Et le seul déchet, c'est du bois.
Et ça marche bien, en plus.
Voilà, Langouette, Ille-et-Vilaine, le village breton, le laboratoire écologique Sandy Dauphin. Demain, donc, deuxième épisode.
On parlera du logement avec un nouveau projet d'aménagement à Langouette.
Et on se retrouve, bien sûr, dans La Terre au Carré. À demain.
France Inter. La Terre au Carré.
Et vos solutions pour la planète. Nous sommes en ligne aujourd'hui avec vous, Martin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes biologiste marin, cofondateur de Coral Guardian. C'est une association qui agit pour la conservation des écosystèmes coralliens en Indonésie. Vous n'êtes pas en Indonésie là en ce moment, hein ?
Non, je suis en France.
Bon, vous êtes rentré récemment ?
Je suis rentré, alors cette année je n'y suis pas allé, j'y étais l'an dernier.
Alors, comment est-ce que vous avez commencé à travailler justement pour ce pays ? Racontez-nous.
Alors, je suis à la base de formation en écologie et biologie marine. Mmh. Je suis parti en Indonésie pour mon premier emploi pour de l'élevage de coraux et de l'exportation de coraux et de poissons tropicaux pour le marché des aquariums.
Oui.
Donc j'ai fait ça un an, c'était pas du tout en accord avec mes valeurs. Mmh. Donc j'ai quitté ce boulot, j'ai rencontré mon collègue avec qui on a cofondé cette association, Coral Guardian, en 2012. Voilà.
Et donc votre association est vraiment basée là-bas maintenant ?
Alors c'est une association française qui agit en Indonésie pour le moment. On est en train de sonder un peu pour agir à d'autres endroits sur la planète. Mais historiquement, on est basé en Indonésie.
Elle est où, votre association ? Sur une petite île, dans un petit village ?
Alors, elle est située, je ne sais pas si vous connaissez le parc national de Komodo, là où il y a les varans de Komodo.
Ah oui, les gros lézards horribles, oui.
Voilà, bon, horribles après, tout dépend de...
On les appelle les dragons de Komodo,
donc,
d'ailleurs.
C'est à peu près central en Indonésie. L'Indonésie, c'est quand même 17 000 îles. Ouais. C'est sur une zone, donc c'est la zone la plus biodiversifiée au monde, en espèces sous-marines. C'est là où il y a le plus d'espèces au monde.
Ouais.
Et donc voilà, on agit avec un petit village de pêcheurs de 700 personnes et sur une petite île qui est juste à côté de leur village.
Ouais. Voilà. Mais Martin, c'est l'île de Flores, c'est ça où vous êtes exactement ?
Alors juste à côté de l'île de Flores, juste à côté du parc national de Komodo en fait. C'est plein de petites îles, c'est un archipel.
Bon, c'est là qu'on a trouvé le fameux homme de Flores alors.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Alors donc hotspot de la biodiversité, c'est ce que vous venez de nous dire, mais également un lieu menacé par le changement climatique et la pêche qu'on pratique à la dynamite, c'est ça sur place ?
Alors oui, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Alors il y a des problématiques globales qui sont du coup le réchauffement climatique, voilà et tout ce qui s'ensuit, et des problématiques locales comme par exemple la pêche à la dynamite. On peut, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la pêche au cyanure, il y a les constructions et la sédimentation que cela crée sur les récifs. Donc voilà, on répond à plusieurs types de problématiques.
Donc la pêche à la dynamite, c'est comme on s'en doute, ils font exploser.
La pêche à la dynamite, historiquement, encore une fois, c'est les Américains qui ont amené ça aux Philippines quand ils étaient basés aux Philippines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Ils pêchaient à la grenade. Et donc les pêcheurs ont imité en fait cette pêche, donc les pêcheurs philippins, et ça s'est décalé vers l'Indonésie. Maintenant le monde entier utilise cette technique qui est encore utilisée et qui en fait sur un récif corallien, donc ok, on pêche énormément de poissons la première fois, mais on détruit vraiment la base du récif, c'est-à-dire toute sa structure solide. Les coraux poussent en mourant, le corail pousse, il pousse les uns sur les autres pour construire cette barrière. Et la pêche à la dynamite, le problème, c'est qu'elle détruit en fait la structure solide du récif, qui ne peut plus construire vers la surface.
Donc on raye de la carte un écosystème très rapidement, j'imagine, avec ces pratiques
de
pêche.
Voilà, exactement, ouais. En l'espace de quelques secondes. Mais c'est des gens qui n'étaient pas vraiment sensibilisés à ce type de pêche, en fait. Ils n'avaient pas vraiment de retour et ils ne connaissaient pas vraiment l'impact qu'allait avoir cette pêche.
Donc vous, justement, vous essayez de les sensibiliser sur place, les pêcheurs et les jeunes?
En fait, on a fait une mission de repérage sur cette zone et on s'est rendu compte que ces pêcheurs étaient déjà au courant de l'effet néfaste qu'ils avaient eu sur leur écosystème. Mmh. Et donc, c'est eux qui ont demandé notre aide, en fait. Donc voilà. Et c'est vraiment... Donc, on n'arrive pas en disant ce qu'il faut faire. On arrive... C'est une sorte d'échange, en fait. On apprend énormément d'eux. Nous, ils apprennent de nous toute la partie écologie, biologie marine. Mmh. Et nous, on apprend toute la culture ancestrale de la mer. Et ensemble, on arrive à monter des projets qui sont ultra efficaces au niveau de la conservation marine.
Mais Martin, c'est toujours autorisé cette pêche à la dynamite, là, aujourd'hui?
Alors, c'est interdit. Après, il faut encore la contrôler. C'est-à-dire que y a beaucoup de choses qui sont interdites et qui sont encore pratiquées un peu partout dans le monde. Mmh. Donc, voilà. Le problème, c'est surtout la surveillance. Et c'est strictement impossible de surveiller 17 000 îles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous avez dit tout à l'heure, ça fait depuis 2012, hein, me semble-t-il, que vous avez fondé l'association.
Exactement,
c'est ça,
ouais.
Est-ce que vous avez 2012. Déjà des résultats visibles? Est-ce que vous avez vu du corail réapparaître, un changement dans les fonds marins qui entourent le village?
Oui, alors on a sur cette zone à Florès, on a 5 ans de recul. Les coraux, c'est des organismes, comme contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est des organismes qui poussent assez vite, qui peuvent prendre à peu près, en moyenne, ce qu'on a remarqué sur nos zones, un demi-centimètre par mois. Voilà, donc c'est des animaux qui, au bout d'un an, peuvent mesurer 6 centimètres, et enfin, ça grandit très vite. Donc on a déjà des retours sur la croissance des coraux, sur le retour de biodiversité en poissons et autres animaux. Je parle de crustacés, de mollusques. Et voilà, on a des résultats ultra satisfaisants. Et voilà. Et comme je le dis, en fait, la restauration de récifs, c'est un outil pédagogique. C'est pas un moyen de restaurer tous les récifs de l'Indonésie ou du monde. C'est de faire comprendre justement à ces pêcheurs que le corail est un animal qui lui grandit, qu'il ramène du poisson, qu'il a vraiment un intérêt sur toute la chaîne alimentaire.
Et donc ça fonctionne, cette sensibilisation? Vous allez dans les écoles, vous, qu'est-ce que vous faites exactement pour pouvoir justement toucher les personnes?
Alors, sur le terrain, donc on a nos actions de restauration, on implique plusieurs pêcheurs à l'année, et on a des actions aussi dans l'école du village, donc des cours d'anglais liés à l'écologie marine. Donc ça, c'est pour toute la partie locale. Et après, on a des façons plus globales, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément que la partie locale qui importe, mais aussi la partie globale et le réchauffement climatique. Et donc, on apporte aussi de la sensibilisation au grand public via notre site internet, via un kit de sensibilisation que nous sommes en train de mettre en place actuellement et qu'on sortira très bientôt.
Et c'est aussi quoi un kit de sensibilisation? Pardon. C'est quoi un kit de sensibilisation?
Alors, c'est une présentation qui peut avoir plusieurs formes, mais c'est une présentation pour le grand public qui présente le corail. Qu'est-ce que c'est que le corail? Comment agir pour préserver aussi le corail et ses écosystèmes en danger? Et voilà, en fait, toute une série d'informations. Il y a aussi un petit quiz où on peut répondre à des questions, donc c'est assez interactif. Voilà, et c'est fait pour être utilisé soit dans des écoles, soit dans des clubs de plongée, par exemple, parce que les plongeurs sont des gens ultra intéressés au milieu marin. Mmh. Ben voilà, c'est un kit qui est destiné au grand public.
Voilà, et vous croyez en la conservation participative, ça c'est un chouette terme, avec Coral Guardian qui est votre association. Vous avez le site internet à nous donner, Martin?
Alors, ben, www.coralguardian.org, voilà. Et via notre site internet, vous pouvez aussi, donc on a un programme qui s'appelle Adopte un corail, c'est un moyen de faire un beau geste pour le récif. Et donc, ça se passe sur notre site, c'est un don de 30 euros. Et notre équipe sur le terrain plante un corail. Ensuite, on vous envoie un certificat avec le nom que vous voulez donner au corail, le point GPS où il a été planté, la personne qui l'a planté. Voilà,
bon.
C'est un super cadeau.
Eh bien, on va sur votre site internet à offrir donc un corail cadeau.
Adopte
original.
Un corail, voilà. Je préfère adopter un corail. Mec. Hein.
Voilà.
Merci beaucoup, Martin.
Merci à vous, merci
en tout
beaucoup.
Cas, à bientôt et merci d'être passé dans l'émission aujourd'hui.
Au revoir. Au revoir.
Allez, dans un instant, on fait le point sur l'opération lundi vert avec notre invité, le psychologue Laurent Beg. Ou comment ne pas manger de viande le lundi. Je sais que ça énerve beaucoup de gens, mais pourtant ça fonctionne pas mal, on va le voir.
Y'all already comfortable, stuck up in the matrix. It's basic, past credentials. But I understand your favorite rapper, peep my gold potential. I'm out of shame, been past it. Trying to fit the circle cause I don't know how to act. Half of y'all was steady, insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic. Young veteran, new classic. Now I knock the walls off. The whole key, we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits.
I hate to say my feelings for you still exist.
Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back to Zion, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this, I put my pen in it, got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh off my flesh. Witness in me, you can't make me feel less. Let's hold, I'm not impressed. Best smoke on my afro like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Name Eve, somebody ate the food they told the great to never eat. I'm tripping, DNA sees like I'm born gray. I be mad 2 G's, third war win it, first war I dated. No mentor, all my heroes assassinated. We been here, reincarnated. Tryna finish what they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Sampa the Great, c'était Final Form et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
La viande hachée, de la vraie viande rouge pour faire aimer la viande aux enfants. Ça va pas, non? Je les ai pas attendus. Les miens, ils mangent que ça. Et j'en ai 4 à la maison.
Bonjour Laurent Beg.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université de Grenoble-Alpes. Vous avez lancé en janvier dernier cette initiative des lundis verts avec Nicolas Trèche de la Toulouse Schools of Economics et vous confirmez à Camille que ça se passe bien tous les lundis, hein, ce lundi vert.
Tous les lundis, effectivement, on remplace la viande et le poisson par d'autres aliments, des végétaux notamment.
Alors, est-ce que ça a bien pris depuis que l'opération a commencé en janvier dernier? Parce que là, je crois qu'il va y avoir un petit coup de booster en plus avec le Crous, hein, c'est ça?
Bien sûr, donc le Crous, qui déjà depuis longtemps a une politique de développement durable qui existe et hein, qui s'est manifestée dans ses restaurants, eh bien endosse finalement. Le met en place à partir donc de la semaine prochaine.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines de restaurants qui vont proposer chaque lundi un repas végétarien, donc à leurs usagers, étudiants, et transmettre effectivement une nouvelle habitude, une nouvelle manière de consommer effectivement donc des aliments végétaux. Donc lundi vert a été lancé en janvier dernier. Vous vous rappelez, donc il y avait 500 personnalités qui ont signé donc un appel pour un lundi vert basé sur des critères à la fois environnementaux, sanitaires et liés aux animaux. Donc 500 personnes qui étaient effectivement porteuses, essentiellement des chercheurs d'ailleurs. Hein. Plus de la moitié étaient des chercheurs universitaires, INSEAM, CNRS. Et l'idée était à la fois de mettre en place des modifications du comportement alimentaire, une sorte de conversion alimentaire, mais aussi une recherche de suivi de cohorte, puisque nous suivons plusieurs milliers de personnes durant cette étude, justement, pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui favorisent ou qui paralysent le changement alimentaire que tout le monde appelle de ses voeux.
Alors justement, quel est l'intérêt d'arrêter la viande le lundi? C'était quoi finalement le cœur de la proposition là?
Alors, il y a plusieurs, encore une fois, plusieurs principes. Il y a une sorte de confluence, de motivation. Il y a bien sûr les motivations environnementales. Et bien sûr, on a de nombreux travaux maintenant qui établissent l'impact de la production de viande sur l'environnement, à la fois sur la production du gaz à effet de serre, sur le gaspillage finalement de l'eau potable et beaucoup d'autres choses. On a un impact qui est connu également sur différents aspects de la santé, hein, maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, etc. Et puis, personne n'est indifférent aujourd'hui à la question animale. Et on sait qu'il est quasiment impossible de nourrir comme on le fait actuellement avec de la viande sans porter atteinte finalement aux animaux. 90% des animaux consommés en Europe sont issus d'élevage industriel et on sait à quoi ça correspond aujourd'hui. Donc pour beaucoup de gens, il y a des raisons convergentes assez bonnes pour commencer doucement à changer les habitudes de consommation et ça passe par un lundi par semaine pour essayer autre chose.
Laurent Bègue, est-ce que le lundi par semaine, ça vous permet, j'imagine à vous, donc, de pouvoir voir les résultats concrètement et faire des études, mais est-ce que quelque part imposer une journée à des gens, ça peut pas être parfois contre-productif parce qu'il peut arriver dans la semaine qu'on mange pas de viande de la journée, mais en fait presque sans s'en rendre compte.
Bien sûr, chacun évidemment fait comme il le souhaite. On a placé le lundi parce que c'est plus facile pour la restauration collective et aussi finalement pour nous qui avons des agendas chargés de se dire, eh bien voilà, c'est le lundi et pas un autre jour. C'est plus simple à organiser de le fixer à lundi. Mais bien sûr, on peut très bien se fixer un autre jour si on le préfère. On s'est rendu compte au bout d'un mois qu'à peu près 50% des Français avaient entendu parler du lundi vert sur la base d'une enquête sur l'échantillonnage national et que 10,5% avaient commencé. Donc c'est effectivement un premier pas. On se rend compte que ça prend doucement, mais ça prend. Et aujourd'hui, avec l'entrée du CROUS, donc notamment effectivement de sa présidence, de ses cuisiniers, hein, dans cette initiative du lundi vert, on a l'impression que ça redonne effectivement un boost supplémentaire, puisque le CROUS sert donc chaque année 60 millions de repas. Et donc, on imagine que sur l'ensemble, on va augmenter significativement la prise de repas alimentaires. Alors, c'est évidemment un choix, c'est-à-dire que personne ne sera obligé dans les CROUS, dans les restaurants universitaires, de choisir un plat végétarien. Ceci étant, il y aura une proposition qui sera mise en valeur, qui sera mise en avant. Et on sait par ailleurs que le simple fait de proposer une végétarienne augmente significativement les prises végétariennes. Donc c'est intéressant d'avoir une proposition qui soit riche, attractive, intéressante.
Oui, ça, il y a eu des travaux britanniques hein, qui l'ont montré il y a quelques jours, justement, qu'en proposant plus de choix au niveau du végétarisme, eh ben, ça incite les consommateurs à le choisir plus fortement. On va écouter un micro-trottoir. Allez-y, Laurent
Bègue. Oui, d'autant plus que la publication dans les PNAS à laquelle vous faites référence montrait qu'il n'y avait pas ensuite d'effet rebond, c'est-à-dire que les gens ne prenaient pas le lendemain plus de viande. Oui. Donc il y a vraiment un effet intéressant.
On va écouter un micro-trottoir très court. Ça s'est passé en janvier dernier au moment du démarrage du lundi sans viande.
Ouais, non, je peux pas. Parce que, je sais pas, la viande c'est bon. Je peux pas, on peut pas se passer de viande comme ça. Clairement.
Le lundi, hein, pas plus. Je pense juste le lundi, ouais, ça peut être possible. C'est compliqué, mais je sais qu'il faut le faire.
Est-ce que je vais respecter jusqu'au bout? Je sais pas, mais pourquoi pas essayer? Oui, en effet.
Si ça peut permettre de sensibiliser les gens au fait que on peut manger de manière peut-être un peu plus équilibrée et que ça fait du bien par ailleurs, pourquoi pas quoi.
Voilà l'avis donc du public dans la rue au sujet de cette question. Camille, une question pour Laurent Bègue.
Oui, on entend d'ailleurs une dame. Le profil des participants, il est assez marqué. Il y a plus de femmes, je crois, Laurent Bègue.
Oui, absolument. Donc c'est vraiment effectivement une plus grande sensibilité des femmes à cette question. On a également constaté qu'il y avait bien sûr des facteurs sociodémographiques qui rendent plus sensibles à la question de l'alimentation végétarienne, effectivement du changement d'alimentation le lundi. Les personnes de niveau d'études supérieures, des personnes ayant plus de ressources, effectivement des personnes qui ont dans leur environnement un nombre plus important de personnes végétariennes, eh bien sont plus réceptifs évidemment à une offre de ce type. Ceci étant, en
Vous dites aussi des gens dont l'ouverture est plus élevée que dans la population générale. Ça veut dire quoi ça, l'ouverture?
Voilà, donc en fait, c'est un trait de personnalité qui correspond à l'un des cinq grands traits qui décrivent le comportement et les conditions humaines. Et donc, il y a ce trait qui est une sorte d'ouverture cognitive à la nouveauté, finalement, à l'expérience nouvelle. C'est un peu l'inverse du conservatisme cognitif. Donc, les personnes qui sont plus à la recherche de sensations nouvelles, à la recherche d'expériences nouvelles, sont également plus enclines à la fois à s'engager dans le lundi vert par rapport à la population générale et aussi à durer, puisqu'on a suivi pendant plusieurs mois les participants. Et ceux qui avaient un niveau d'ouverture plus important étaient aussi plus enclins à tenir à leurs décisions. Donc, on a effectivement une variable psychologique qui se combine aux variables sociales et démographiques pour prédire en quelque sorte ce comportement de transformation alimentaire.
Laurent Bègue, on a l'impression que cette question de la consommation de viande intéresse de plus en plus de monde ou qu'on en entend de plus en plus parler. Est-ce que ça se vérifie dans la consommation réelle?
Alors, il y a, disons, de manière générale en France, depuis une dizaine d'années, une diminution de la consommation de viande. Mm-hmm. Mais par ailleurs, dans le monde, une augmentation se fait sentir. Hein. Aujourd'hui, on consomme chaque année 312 millions de tonnes de viande, ce qui implique effectivement un nombre important d'animaux abattus, hein, 60 milliards, dit-on. Et en fonction de l'évolution économique des pays, ainsi que de l'augmentation de leur population, eh bien, on assistera dans les années à venir à une augmentation encore plus importante de la consommation de viande. Donc, il y a effectivement une prise de conscience à faire à l'échelle planétaire. On peut commencer effectivement à se sensibiliser à la question en appliquant au niveau national ce type de mesures, mais il est évident que c'est un problème systémique.
Il y a aussi des réactions très critiques. Hein. Au lundi vert, on a Perico Legas, critique gastronomie, qui vous traite de tartuffe de la malbouffe, la FNSEA qui s'est opposée, et même un député qui, lui, s'est engagé à manger de la viande rouge tous les lundis. Vous répondez quoi à toutes ces critiques?
Écoutez, je leur souhaite la bonne journée.
Bon, bah écoutez,
c'est clair.
Bon lundi vert alors, Laurent Bègue.
Voilà.
Alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y a toujours un site internet qui est disponible.
Oui, donc c'est lundi-vert.fr qui à la fois propose effectivement d'entrer dans la recherche de suivi de cohorte. Donc si vous voulez participer effectivement à cette grande enquête qui est menée avec plusieurs laboratoires et qui va consister à remplir un questionnaire et recevoir chaque lundi un petit rappel. Effectivement, aujourd'hui c'est lundi vert. Et puis chaque mardi, on vous demande de répondre à une question binaire. Avez-vous participé ou non à lundi vert? Et comme ça, plusieurs semaines de suite, on peut également aller sur la page Facebook de lundi vert pour avoir effectivement des recettes, des informations, des news sur la question du lundi vert.
Merci. Merci Laurent Bègue d'être venu nous en parler aujourd'hui dans La Terre au Carré. Merci aux équipes de France Bleu Isère pour ce duplex. Camille, bonne journée à vous.
On se
retrouve demain. Merci à Denis Delbecq pour la rédaction en chef de cette émission. Chantal Le Montagnier, Lucie Sarfati et Irène Menahem pour la préparation des dossiers.